RCF.
Si comme l'écrit Christian Bobin, le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles, alors nous allons beaucoup voyager au cours de ces entretiens. Et nous allons aussi philosopher, puisque selon Eric Orsenna, le jardin, c'est de la philosophie rendue visible. Ce voyage et cette réflexion, nous allons les faire avec vous, Jean Vassor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur chez Perrin d'un livre intitulé « Les jardins de France, une histoire du Moyen-Âge à nos jours ». Vous êtes professeur honoraire de Cagnes et vous êtes également l'auteur de « L'art des jardins de France » paru chez Ouest France en 2017. Alors j'aimerais savoir d'où vous vient cet intérêt pour les jardins et leur histoire.
Dans de précédents ouvrages, j'ai travaillé un petit peu sur les châteaux, notamment les châteaux de la Loire, ce qui inévitablement m'a amené à rencontrer les jardins. Et mon goût de l'histoire étant celui d'une histoire culturelle dans laquelle je mets en rapport les objets étudiés avec la société qui leur donne naissance, avec la culture dans laquelle ils se développent, il m'est apparu qu'il était intéressant de considérer les jardins. Et cette intuition première s'est largement vérifiée ensuite au cours du travail.
Alors comment est-ce qu'on retrace l'histoire des jardins? À partir de quel type d'archives, de documents on élabore ce travail et sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer?
La dite histoire des jardins est une histoire de seconde main. J'ai en fait utilisé des travaux nombreux déjà publiés par des historiens divers et également par exemple des catalogues d'expositions depuis la fin du XXe siècle en France consacrés aux jardins, en particulier à ceux du Moyen-Âge ou au Jardin des Lumières également.
On peut s'appuyer sur l'archéologie par exemple?
Non, alors l'archéologie de jardins existe, mais elle est extrêmement délicate, surtout pour les périodes anciennes. Le propre d'un jardin, c'est d'être quelque chose d'extrêmement fugace, d'extrêmement vulnérable, éphémère, qui ne résiste pas très longtemps. Alors on peut retrouver quand même des traces de structures, parfois de structures maçonnées qui servaient de soubassement à des terrasses, par exemple, ou des escaliers. Mais c'est pas l'élément le plus fréquent et je me suis largement appuyé sur la production iconographique, y compris sur la représentation dans les deux sens du terme des jardins. Pour le Moyen-Âge, par exemple, il n'existe aucun jardin médiéval aujourd'hui en France qui subsiste. Tous les jardins médiévaux sont des reconstitutions. En revanche, on a dans la littérature, on a dans les enluminures, quantité d'informations qui nous informent sur ce qu'était la représentation que la population de l'époque avait du jardin.
Puisque vous parlez du Moyen-Âge, Jean Vassor, est-ce que les jardins du Moyen-Âge ont quelque chose à voir avec ceux de l'Antiquité? Est-ce qu'ils en sont les héritiers en quelque sorte?
Pas directement. Il y a eu au début du Moyen-Âge une rupture assez nette sur ce plan. Et ce n'est que peu à peu que peut-être des éléments antiques peuvent revenir par le biais des lettrés qui connaissent ces jardins à travers les textes qu'ils lisent. Mais sinon, au Moyen-Âge, les jardins en France, pour l'essentiel, partent sur des bases nouvelles, pour une bonne part du reste des bases religieuses.
Pourquoi?
Parce que, d'abord, les écritures, qui sont quand même les premiers textes fréquentés par les gens du Moyen-Âge, les écritures font référence à des jardins majeurs. Chacun connaît le jardin d'Éden, dont sont chassés Adam et Ève. Autre texte majeur dans la littérature religieuse du Moyen-Âge, le Cantique des Cantiques, qui fait allusion au jardin scellé, dans le vers très célèbre « Un jardin bien clos ». Ma sœur aux fiancés, un jardin bien clos, une source scellée. Et donc les historiens du jardin médiéval s'accordent à voir dans ce texte l'origine de ce qu'on appelle l'hortus conclusus, le jardin clos, qui est récupéré notamment pour représenter très souvent la Vierge au Moyen-Âge. La Vierge est représentée dans un entourage de jardin, soit un vrai jardin avec des murs crénelés qui l'entourent, soit un décor qui est au moins floral. Et c'est une deuxième représentation très importante dans l'iconographie. Si on faisait des statistiques, c'est une représentation qui apparaît très souvent. Et puis il y a même une troisième représentation qu'il ne faut pas négliger, c'est celle du matin de Pâques, lorsque Marie-Madeleine va sur le tombeau du Christ et qu'elle découvre que le tombeau est vide, le Christ qui a été supplicié 2 jours plus tôt. Et quand elle se retourne, à ce moment-là, apparaît un jardinier. Alors en fait, ce jardinier, on le sait, c'est le Christ, mais elle ne le reconnaît pas. Mais la scène prend place dans un jardin avec un jardinier, mais il n'est pas indifférent quand même que dans la vision chrétienne du Moyen-Âge, des épisodes aussi importants que la création, le rôle croissant joué par la Vierge et le rôle de Marie-Madeleine, trois femmes, celle qui est responsable de la chute, celle qui est la consolante et la mère du Rédempteur, et puis finalement la pécheresse repentie, tous ces éléments se trouvent tous
dans
situés
un jardin.
Dans un cadre de jardin.
Les jardins qui ont également beaucoup inspiré les artistes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague.
Le jardin d'Éden évoqué par Georges Moustaki, Jean Vassor. Ce jardin, il est aussi très important dans la vie monastique qui émerge véritablement au Moyen-Âge, qui se structure au Moyen-Âge. On le retrouve dans la plupart des cloîtres. Pourquoi un jardin au centre du monastère ?
Oui, en effet, c'est l'autre dimension religieuse et cette fois-ci réelle du jardin au Moyen-Âge. Les précédents sont des jardins de représentation. Alors, dans les monastères, vous avez effectivement le cloître qui est le cœur du jardin, le cloître qui est de forme carrée, ce qui renvoie aux quatre éléments, quatre fleuves du paradis, enfin toute une symbolique qu'on ne va pas développer ici, un carré disposé sous la voûte du ciel, ce qui a aussi une dimension symbolique et qui permet aux moines de méditer dans un espace de paix retranché par rapport au chaos du monde. L'idée du cloître, c'est que c'est cet isolat de paix qui permet de méditer sur les choses essentielles par rapport à un monde difficile, hostile, qui est le monde hérité par l'humanité après avoir été chassé du paradis.
Là, il s'agit de quelque chose qui représente une forme d'harmonie et d'équilibre.
Exactement. C'est quelque chose qui est presque la quintessence de l'harmonie et de l'équilibre au sein du monastère et qui apparaît dès le cœur du Moyen-Âge et qui se maintient en permanence par la suite. Alors c'est un jardin parce que souvent il y a des pelouses. Il y a aussi, c'est important, fréquemment un point d'eau, un puits, qui est le symbole un petit peu des fleuves du paradis, de la source des fleuves du paradis. Végétation même souvent sculptée sur les chapiteaux de la colonnade qui entoure le cloître et qui contribue à renforcer cette image de jardin. La première image de jardin au sein du monastère.
La présence de l'eau que vous venez d'évoquer, Jean Vassor, est-ce qu'elle est empruntée aux jardins orientaux dans lesquels il y a toujours de l'eau qui coule ?
Alors, ce modèle oriental a joué incontestablement au Moyen-Âge, mais je pense qu'il a joué surtout pour les jardins aristocratiques qui viennent un petit peu plus tard, après qu'ils aient été fréquentés, les jardins d'Orient, au moment des croisades. Dans le cas du point d'eau dans le cloître, je pense aussi qu'il y a une raison un petit davantage théologique qui l'explique. C'est l'eau source de vie qui est une permanence des jardins. C'est vrai aussi bien pour les potagers, où là c'est l'eau source de vie pour les végétaux.
Nécessaire.
Il faut arroser. Un jardin, ça s'arrose. Qu'ici, c'est source de vie spirituelle. Il y a un jeu, si vous voulez, sur les deux formes du jardin. Les moines l'utilisent, ce jeu, parce que ils ont aussi dans le monastère d'autres jardins. Hein, on le sait par le fameux plan de Saint-Gall, qui est un plan du IXe siècle. On n'est pas sûr que c'est le plan d'un monastère qui a existé, mais ça a servi de norme au Moyen-Âge. Alors, les autres jardins, il y en a trois. Il y a le jardin des simples, où l'on cultive des plantes médicinales et souvent aussi des plantes condimentaires. Il y a le verger des arbres, fruitier, parfois d'ornement, mais surtout fruitier. Et il y a un potager. Et ça, dans la vie des moines, c'est important. C'est important à la fois parce que ça leur permet de travailler de leurs mains, selon la règle de Saint-Benoît, sa valeur pénitentielle. Le potager, ça apporte des légumes à des gens qui ont un régime assez peu carné, en fonction des jeûnes qui leur sont imposés. C'est important aussi parce que ça leur fournit la base d'une pharmacopée. Et puis, enfin, ça leur donne aussi une connaissance, les bases d'un savoir botanique, dont ils sont, au Moyen-Âge, les meilleurs spécialistes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
On y reviendra.
Donc, les jardins au Moyen-Âge dans un monastère, c'est le cloître, mais ce sont aussi ces jardins périphériques, mais importants dans la vie du monastère.
Est-ce que ça veut dire que dans le monastère, il n'y a aucune fonction d'agrément du jardin, il ne peut avoir qu'une fonction utilitaire, et que donc le jardin d'agrément avec des fleurs, avec des parfums, ça serait par exemple réservé à l'évocation de l'amour courtois
pas
et à la sensualité
fait. Pas tout à fait. Alors, n'allons pas trop loin dans une sensualité poussée trop loin, mais à partir du XIIIe siècle, on a des textes, notamment d'Albert le Grand. Albert le Grand, c'est le maître de Thomas d'Aquin, qui décrit un verger de monastère dans lequel il est sensible aux fragrances, dans lequel il est sensible aux sensations du vent, dans lequel il est sensible à l'harmonie des végétaux. C'est pas vraiment des fleurs, c'est plutôt des arbres. Il est sensible aux banquettes, où on peut s'asseoir, c'est des talus gazonnés, où on peut s'asseoir pour contempler le verger. Donc cette notion apparaît un petit peu chez les moines, mais naturellement, c'est dans les jardins aristocratiques qu'elle est cultivée le plus nettement, surtout à partir du moment où le jardin aristocratique a une vocation de jardin d'amour. Comme on le voit dans la littérature courtoise. Dans la littérature courtoise, le lieu où la belle va être retrouvée, où la dame va être retrouvée, c'est pratiquement toujours un jardin.
Vous avez évoqué, Jean Vassor, précédemment, le jardin potager qui existe dans l'enceinte du monastère pour des raisons évidentes de besoin pour s'alimenter. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez général dans les périodes anciennes où il faut bien se nourrir? Est-ce qu'on trouve des jardins potagers un peu partout?
Absolument. En ville comme à la campagne, très tôt au Moyen-Âge, on a des traces attestées par les sources très nombreuses de l'existence de ces jardins potagers. Alors, il existe, on va peut-être les laisser de côté pour l'instant, des potagers aristocratiques qui ont un autre sens, qui ont un sens d'agrément, qui n'est pas un sens économique premier. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le potager populaire, qui est quelque chose d'extrêmement répandu, parce que, comme vous le dites, il répond à un besoin matériel, élémentaire, qui est celui de l'alimentation.
Alors, vous dites qu'on le trouve autant à la campagne qu'en ville?
Oui. Alors, à la campagne, on le trouve auprès de chaque maison, de chaque demeure.
Habitation, ouais.
En ville, on le trouve parfois à proximité de la demeure, mais tous les citadins n'en possèdent tout de même pas en ville. Ce qui explique qu'il y ait des zones maraîchères pour alimenter les autres. Mais ce qui se passe en ville, c'est que les citadins ont un jardin à la périphérie. Mais c'est extrêmement fréquent aussi d'avoir un jardin. Parce que ça répond, je disais, à un besoin alimentaire de deux façons. D'une part, ça apporte des calories, mais surtout et fondamentalement, et ça, à mon avis, ça a été trop peu souligné, si vous prenez le cas de la campagne, les paysans se nourrissent de céréales, des bouillies ou du pain, faites à partir des céréales.
Vous parlez du Moyen-Âge, là, essentiellement?
Du Moyen-Âge et des siècles de l'époque moderne, même encore. Hein. Mais ce sont des nourritures extrêmement monotones, qui certes assurent l'apport calorique, mais pas forcément les sels minéraux, et surtout n'assurent aucune diversité gustative.
C'est-à-dire?
Ce que le jardin apporte avec ses légumes, c'est précisément une diversité condimentaire, une diversité de légumes, une variété saisonnière qui en fait tout l'intérêt.
Est-ce que ce jardin potager s'organise un peu toujours de la même manière ou bien finalement chacun laisse libre cours à son imagination, à son intuition?
Non, il y a des structures assez permanentes qu'on repère, des invariants. La première idée d'abord, c'est que le jardin, en général, est enclos. Il est enclos parce que si vous ne mettez pas une clôture, les animaux divagants, à commencer par les lapins, des animaux tout à fait élémentaires, vont venir s'occuper de vos salades. Donc, il faut l'enclore. En lui mettant une clôture, en ajoutant à cela le fait qu'il est proche de la maison, souvent il jouxte la demeure, ça l'inscrit dans la sphère domestique. Ça, c'est un premier trait caractéristique. Donc, dans la sphère, on pourrait dire presque privée. Ce qui est symptomatique, c'est que, alors que les paysans paient des redevances pour les récoltes des champs, paient la dîme sur la récolte, au clergé sur la récolte des champs, ils ne payent rien de tel sur le jardin, qui est vraiment leur affaire. Deuxièmement, alors que les champs sont cultivés de façon homogène, c'est un champ de blé, c'est un champ d'avoine, le jardin est cultivé avec des planches, à l'époque, on dit des carreaux, extrêmement diverses et dont on modifie le plan d'année en année. Le jardin, c'est petit et c'est fragmenté. Donc, ça ne se cultive pas avec des animaux. Ça se cultive avec une main-d'œuvre humaine. Et comme c'est près de la maison, la main-d'œuvre dominante, c'est celle de la femme. accessoirement des enfants. Le jardin, c'est un espace domestique, donc féminin, par opposition aux champs qui sont le lieu d'intervention des hommes. Hein, il y a cette caractéristique. Dernière différence avec les champs, le jardin, ça s'arrose. On arrose le jardin alors que les champs, jusqu'à la fin du XXe siècle, on ne les arrose pas.
On attend qu'il
pleuve.
Il
faut attendre les années 1950 pour qu'on voit les arroseurs. Donc tous ces éléments font du jardin potager un élément tout à fait original.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces jardins ?
Alors, dans les jardins, la diversité des planches par rapport aux champs, c'est une production qui est variée de légumes divers, de fruits. Il peut y avoir un arbre fruitier ou deux. Il y a souvent un petit élevage, des clapiers, 3-4 poules, des choses comme ça, donc des œufs. C'est vraiment une diversité alimentaire qui est assurée avec des plantes, souvent au cours du Moyen-Âge, tirées de la nature environnante. C'est-à-dire qu'on a repéré de nature une plante que par cueillette on a trouvée intéressante, on l'introduit au jardin, on la bichonne un petit peu, on essaie de la sélectionner pour la rendre un peu meilleure d'année en année, et c'est ainsi qu'on l'introduit dans le jardin.
Et c'est aussi pour ça qu'on peut parler de domestication des plantes.
Exactement, domestication des plantes, qui peut d'ailleurs être à bout tranchant. On connaît des plantes qui ont été introduites comme ça, et puis d'autres à un moment donné qui sont abandonnées. Je donne un exemple, il y a une plante qui s'appelle la roche. A-2-0-C-H-E, qui était au départ une plante sauvage. Au Moyen-Âge, on l'introduit dans les jardins. Et puis, quand on arrive à mettre au point l'épinard chasse la roche, parce qu'il est plus intéressant. Et la roche retourne là d'où elle vient, c'est-à-dire la nature sauvage. Vous voyez, il y a tout un mécanisme comme ça d'acclimatation, de sélection et de rejet, qui fait que le jardin est quelque chose de vivant dans le cadre de la civilisation rurale traditionnelle.
Au jardin de mon père, elle était un gros ballon. Au jardin de mon père, elle était un gros ballon. Tout rond comme la terre, en vert et bleu profond sous le pont. Dans ses rimes, mon compère, les beaux jours viendront. Des lacs et des rivières, des plaines, des vallons. Des lacs et des rivières, des plaines, des vallons. Le long de ces rivières, des gens dans les maisons ou sous le pont. Dans ces rimes, mon compère, les beaux jours viendront. Un jour, des champs de guerre ont rempli l'horizon. Un jour, des champs de guerre.
Alors Jean Vasseur, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ces jardins potagers ?
Bon, c'est vrai que, mais c'est à l'époque moderne, ça, au XVIIe siècle, il y a une petite rave que l'on sélectionne et que l'on appelle la tendrette, qui est à l'origine du radis. Il est clair aussi que les carottes à l'époque sont blanches, qu'aujourd'hui on a des carottes de couleur.
Allons bon.
Il y a toute une série de modifications de détails comme ça qui affectent la vie des jardins. Et qui sont d'autant plus, ces modifications sont d'autant plus marquées que pendant longtemps, ce sont les paysans eux-mêmes qui replantent leurs propres graines. À partir de la récolte précédente, ils gardent des graines pour l'année suivante replantées. Et donc, ils font des sélections spontanément. Quand une graine paraît intéressante, on garde celle-là plutôt que l'autre qui est à côté. Et ça se fait aussi par échange entre voisins. Il y a toute une évolution un petit peu spontanée qui se fait à ras du terrain et qui va se prolonger jusqu'au XVIIIe siècle. Parce que le XVIIIe siècle, c'est un tournant important, c'est l'apparition des grainetiers et d'une activité artisanale ou industrielle, comme on voudra, de production de graines. La maison Villemorin-Andrieux, par exemple, apparaît vers 1760-70. Et à partir de là, peu à peu, les jardiniers vont être dessaisis de plus en plus de la production de leurs graines pour être soumis aux graines qui leur sont fournies par une industrie spécialisée qui devient la maîtresse de la fabrication des espèces sélectionnées, des hybrides, etc.
Est-ce que ce que nous appelons aujourd'hui la permaculture, c'est-à-dire l'association de plantes, de fleurs, etc., qui se favorisent mutuellement, c'est quelque chose qui se transmet à ces époques-là et dont on a l'intuition déjà ?
Je le pense. On n'a pas des carnets de détails pour nous dire ce qu'ils faisaient, mais je pense que de toute façon, pour les paysans qui n'ont pas la possibilité de recourir à beaucoup d'intrants extérieurs, comme on dit aujourd'hui dans le jargon des agronomes, d'engrais chimiques, etc., il faut bien qu'ils aboutissent à un équilibre qui va leur garantir une récolte la plus convenable possible. Donc je pense qu'ils sont attentifs à ce que le sol ne soit pas trop épuisé. C'est pourquoi ils sont attentifs à changer les plantes d'une planche à l'autre, d'une année à l'autre, pour que le sol soit consommé d'une manière différente selon les variétés. Et moi, je pense que l'idée de permaculture leur est présente à l'esprit.
Vous parliez de la différence qu'il y a entre les jardins potagers, disons domestiques, de tous ceux qui en ont besoin pour se nourrir, et de ceux de la classe aristocratique. Cette différence, elle tient à quoi ?
La différence tient à ce que l'on produit. Les potagers populaires sont faits pour se nourrir, pour nourrir la famille. Le potager aristocratique ne vise pas cet objectif.
Il vise
à produire des fruits extraordinaires, des beaux légumes, aboutir à des végétaux qui soient très beaux à regarder. On le voit bien aux tâches qu'accomplissent les aristocrates dans leur jardin. Les aristocrates ne bêchent pas leur jardin ou ne le désherbent pas. En revanche, ils taillent pour donner au végétal la forme souhaitée.
Or, on est plus dans une préoccupation esthétique, quoi.
Et tout à fait. Alors, les greffes. Au XVe siècle, il y a une vogue de la greffe extraordinaire, et on fait les greffes les plus extraordinaires possibles. Greffer 6 végétaux différents sur un même support, si vous voulez. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, on recherche à éblouir les visiteurs, en fait. C'est un jardin qui a une fonction d'ostentation.
Est-ce que la découverte du Nouveau Monde et de plantes ou de fruits, de légumes provenant de ces contrées très lointaines modifie quelque chose, change quelque chose au jardin potager ?
Oui, mais progressivement. En ce sens que les villageois, les jardiniers sont intéressés par les nouvelles plantes qui leur arrivent, mais en même temps sont intrigués. Et il apparaît que pour qu'une plante soit adoptée, il faut qu'elle ressemble un peu à quelque chose qu'on connaît déjà. Et puis deuxièmement, les plantes qui arrivent de l'extérieur, on ne sait pas trop quoi en faire. Et curieusement, où est-ce qu'on va faire les expériences, les premières expériences de culture de ces plantes avant de le faire dans les champs ? On va le faire au jardin. Il y a de très beaux textes dans le Maine au XVIIIe siècle, quand arrivent la pomme de terre et le maïs. Ils ne savent pas quoi faire des paysans de ces cultures dans leurs champs, donc ils essayent d'abord au jardin. Et ensuite seulement, une fois qu'ils ont trouvé quelle façon culturelle il faut faire, comment on va les planter, à quel moment, etc., une fois que tous ces savoirs sont acquis, ils vont les transposer au champ et en faire des spécialisations de grandes cultures. C'est la façon qu'il y a de procéder. Alors, anecdote amusante, la tomate. La tomate est connue dès la fin du XVIe siècle. Elle vient d'Amérique et pendant longtemps, elle n'est pas refusée au jardin. Mais elle est refusée comme plante alimentaire.
Parce qu'on s'en méfie ?
Parce qu'on s'en méfie à cause de son odeur. Odeur entêtante, donc on s'en méfie. Olivier de Serres, en 1600, explique qu'il ne faut pas consommer la tomate. Et en 1760 encore, les catalogues de grainetiers que j'évoquais vendent la tomate comme plante ornementale. Et ce n'est que vers 1780 qu'elle est présentée comme une plante consommable.
Jean Vassor, quand on parle de jardin à la française, de quoi parle-t-on exactement ? Et est-ce que cette notion ne peut se comprendre que par comparaison ou peut-être même opposition avec le jardin à l'anglaise ?
Alors, quand on parle du jardin à la française, bon, tout le monde a en tête l'exemple de Versailles, qui en est la plus brillante illustration, ou de Vaux-le-Vicomte, qui l'a immédiatement précédé et qui répond au même esprit. Donc, ce jardin régulier, symétrique, ordonné, répond à un schéma précis, qui bien sûr est différent du jardin à l'anglaise, on y reviendra peut-être, mais qui est aussi le produit d'une histoire qui s'enracine dans les siècles qui ont précédé et qui tient à la fois au fait que ce jardin est le fruit d'évolutions esthétiques, d'évolutions formelles, que ce jardin est aussi le fruit d'objectifs politiques. Et puis enfin, il est également lié à des conditions culturelles propres au XVIIe siècle. Depuis les jardins aristocratiques du Moyen Âge, qui étaient des jardins souvent clos, enfermés par des murs, ou même, pour les plus petits, dans la cour du château. Peu à peu, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les jardins sortir du château. Premier élément. Deuxièmement, se débarrasser de leurs murs, ou en tout cas, avoir des murs qui n'empêchent pas de voir plus loin. Pour manifester une idée nouvelle, à savoir que le maître du jardin n'est plus quelqu'un qui se replie dans son château, mais c'est quelqu'un qui entend affirmer son ambition dans la société en projetant son jardin au dehors. Donc il y a cette idée de domination de l'espace, doublée d'une deuxième qui est que le jardin est fait pour être contemplé en même temps que le château. Du château, on voit le jardin, du jardin, on voit le château, et c'est l'ensemble qui crée une impression de grandeur, de solennité, d'autorité, de majesté. Et cela, ça se fait progressivement. Alors, dans le détail, ensuite, il y a dans les formes aussi des choses qui vont renforcer cette tendance.
Alors, on va revenir sur les formes, mais d'abord, j'aimerais savoir pourquoi ce désir de manifester sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ou peut-être dans la société qui explique ce bouleversement ?
On est dans la logique, si vous voulez, de l'ambition humaniste, du sentiment de l'humanité de la Renaissance, d'avoir davantage de possibilités d'agir sur les choses, de s'affirmer par rapport aux choses. Et au moment même où les grandes découvertes font qu'on commence à conquérir l'espace planétaire, eh bien, les notables, que sont les grands seigneurs ou les rois a fortiori, entendent aussi assurer une espèce de conquête symbolique de l'espace qui jouxte leur château.
Donc c'est une idée de maîtrise et de domination de la nature.
C'est une des idées qui préside à cette évolution, oui.
Alors les formes dont vous parliez, ça se manifeste comment ?
Les formes sont que, à la Renaissance encore, les jardins d'agrément, les jardins aristocratiques, sont des jardins qui juxtaposent des carreaux, comme on dit, des parterres, si vous voulez, qui les juxtaposent les uns à la suite des autres, si bien qu'on découvre leur beauté en se promenant à travers une déambulation. C'est une simple juxtaposition sans grande idée de vue d'ensemble. Et puis, peu à peu, d'abord, on commence par faire des parterres plus grands. C'est-à-dire qu'un jardin, au lieu d'avoir 16 parterres, ne va plus en avoir que 4, pour déjà donner une certaine unité. Et puis, à la fin, on va même arriver à un seul parterre. Ce parterre, au lieu d'y disposer les fleurs selon des formes géométriques, on va faire ce qu'on appelle des parterres de broderie, c'est-à-dire des entrelacs de végétaux qui donnent à l'œil l'impression d'un tapis, donc d'un tapis unique. Et puis également, on va mettre l'accent sur l'axe central du jardin, qui est le même axe que l'axe central du bâtiment, qui fait donc que le bâtiment, le jardin, juxtaposés, sont organisés par le même axe de symétrie et forment donc le même ensemble. Et peu à peu, ce jardin qu'on avait l'habitude de découvrir en déambulant, on le découvre d'abord désormais par une vue d'ensemble, qui est donc une vue dominante et qui amène peu à peu au jardin à la française. Le jardin à la française, c'est cette idée de vue dominante poussée à l'extrême et structurée, organisée par les perspectives tracées à travers le jardin.
Alors perspective, ça sous-entend aussi dans tout ce que vous venez de décrire qu'on est purement dans la géométrie, même dans les mathématiques. On maîtrise suffisamment ces données à cette époque-là pour se permettre aussi ce genre d'inventivité, de création.
Tout à fait. Tout à fait, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en expliquant que des conditions culturelles participaient aussi de cette évolution. La géométrie et l'optique en particulier sont des sciences développées à l'époque, d'abord à cause des astronomes, notamment Galilée. La perspective, c'est aussi un élément qui rentre en ligne de compte dans le travail des astronomes. À quoi s'ajoute, dans le cas de Galilée, l'affirmation... Galilée, c'est au début du XVIIe siècle, l'affirmation que la nature est écrite en langage mathématique. C'est-à-dire qu'on passe de la vision traditionnelle que défendait Aristote de la physique des qualités à l'idée que le monde s'organise de façon numérique. Et donc, le plan raisonné, le plan préétabli d'abord avec ses bases mathématiques est quelque chose qui s'inscrit tout à fait dans l'esprit de l'époque. Et ça, c'est possible parce qu'on a affaire à des jardiniers. Bon, le plus célèbre, c'est le nôtre, qui maîtrise bien ces matières. Il la maîtrise parce qu'ils connaissent un petit peu les découvertes scientifiques. Et puis, il la maîtrise aussi parce qu'ils ont eu une formation d'artistes, notamment d'artistes peintres. Le nôtre, dans sa jeunesse, a participé à l'atelier de Simon Vouet. Donc, la perspective, c'est à la fois le savoir du peintre et le savoir du mathématicien.
Jardin du mois de mai, où êtes-vous ce soir? Jardin fleuri, nos cœurs se sont aimés par une nuit de tendre espoir. Jardin du souvenir, mon premier rendez-vous. Désir charmant et soudain désir fou, tout tourne autour de nous. Depuis, j'ai voyagé là-haut, souvent dans de beaux nuages, changeant d'amour comme l'oiseau change de paysage. Mais rien n'a pu changer au jardin de mon cœur. Mon seul.
Jean Vassor, vous venez de nous décrire le jardin à la française et sa conception, sa symbolique. Quel différencia-t-il avec le jardin à l'anglaise alors ?
Alors le jardin à l'anglaise ou jardin anglo-chinois tel qu'il émerge au XVIIIe siècle s'inscrit en opposition assez évidente avec le jardin à la française. Le jardin à la française, c'est l'ordre, la rigueur, la symétrie, le primat de la droite. Tous ces éléments matérialisant le regard du maître sur le jardin, un regard global, un regard dominant. Le jardin à l'anglaise, c'est la souplesse, c'est la courbe, c'est la sinuosité, c'est l'absence de vue globale, c'est la surprise. On retrouve la déambulation ici. Et le fait pour le promeneur qui visite le jardin de découvrir au gré de ses pas des endroits qui sont charmants, des endroits qui sont magnifiques, des endroits qui sont impressionnants, des endroits voire qui sont terrifiants, un chaos de rochers, etc. Le tout étant fondé sur l'idée que ce qui compte désormais, ce n'est plus la raison dominante de celui qui conçoit le jardin, mais la sensibilité du spectateur qui reçoit le spectacle, les spectacles successifs de ce jardin. Du moins, telle est l'illusion que l'on crée. L'illusion, c'est que ce jardin est un jardin naturel. C'est ce qu'il prétend être. En fait, c'est une nature complètement artificielle. Il y a une citation très célèbre à ce sujet qu'on peut évoquer, c'est celle de Julie dans La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui parle de son jardin de l'Élysée et qui dit « La nature a tout fait, mais sous ma direction, et il n'y a rien que je n'ai ordonné. » Donc c'est une nature tout à fait artificielle qui est présentée aux spectateurs, enfin aux visiteurs, mais qui bien sûr est quelque chose de très différent de ce qu'était le jardin à la française.
Et ça c'est révélateur de conception, de mentalité même très différente ?
Alors c'est révélateur bon, d'une part d'une influence anglaise tout de même, et d'une influence chinoise aussi qui a été réutilisée. C'est révélateur d'une mentalité nouvelle où, face à la raison cartésienne, si vous voulez, du XVIIe, ou même la raison des Lumières, s'affirme de plus en plus le jardin à l'anglaise en France, c'est à partir des 1750-60.
C'est ça, c'est qu'on trouve des jardins à l'anglaise en France.
Ah, bien sûr, bien sûr. Un exemple célèbre que tout le monde connaît, c'est le hameau de la Reine à Versailles, fait par Richard Mick. C'est un jardin à l'anglaise. Et puis, il y a eu le jardin d'Ermenonville, par exemple, le jardin de Méréville. Enfin, il y a un certain nombre de jardins. Les aristocrates se font faire des jardins à l'anglaise à la fin du XVIIIe siècle.
L'inverse, c'est vrai aussi ? On trouve des jardins à la française en Angleterre ?
Très peu. Très peu. Mais oui, en fait, si vous voulez, ces choses-là s'expliquent par l'usage qui en est fait. Le jardin à la française ne va pas disparaître et il connaît même un regain d'intérêt après 1870 avec des paysagistes français qui s'appellent Duchesne, Eugène et Achille, le père et le fils. Parce que là, ça apparaît comme un art français. Et au moment où la France vient d'être vaincue par la Prusse dans la guerre de 70, c'est une façon de réaffirmer, comme disait Spiritus, un ars gallica, un art français, national, patriotique. Et le jardin à la française demeure tout de même le jardin de l'autorité, le jardin officiel. Et souvent les châtelains, même au XIXe siècle, qui se font construire un château, devant le château mettent une partie qui est en jardin à la française. Et puis au-delà, ils mettent une autre partie qui est en jardin à l'anglaise. Parce que le jardin à l'anglaise, c'est celui qui séduit le plus la population, l'opinion. Au XIXe siècle, les jardins publics dans les villes sont des jardins à l'anglaise. Mais la froide solennité, si vous voulez, du jardin à la française conserve ses usages. Et alors, notamment auprès des princes, auprès des autorités politiques. C'est pourquoi je disais en Angleterre Hampton Court, qui est un château royal.
Et toujours pour les mêmes raisons, ça manifeste une puissance, une domination, une maîtrise.
Exactement, c'est ça. C'est une maîtrise, enfin, qui, c'est le propre même de l'art classique, hein, du classicisme, si vous voulez, qui a quand même, si Louis XIV a soutenu cette sensibilité artistique, c'est pas par hasard, c'est que l'ordre qui règne dans le classicisme lui paraissait correspondre avec celui qu'il entendait défendre dans sa politique.
Nous avons évoqué le jardin potager, le jardin à la française avec vous, Jean Vassor. Nous poursuivons notre déambulation, notre découverte de cette histoire des jardins. Vous y consacrez, je le rappelle, un livre paru chez Perrin, Les Jardins de France. On va s'arrêter maintenant sur les jardins botaniques. Vous avez, au tout début de nos entretiens, évoqué l'art des moines dans l'utilisation des plantes, notamment médicinales. C'est le rôle essentiel du jardin botanique ?
Alors, c'est un des rôles. Et il est vrai que dans l'histoire des jardins botaniques, les moines sont le premier maillon, même si avec eux, on ne parle pas de jardin botanique. Mais les moines ont deux caractéristiques qui les rendent importants dans cette histoire. La première, c'est qu'ils ont des jardins sous la main, les jardins de plantes médicinales. La deuxième, c'est qu'il y a parmi eux des lettrés qui ont donc lu les traités des auteurs antiques comme Aristote, Dioscoride, Pline l'Ancien, Galien, etc. À partir de là, ils élaborent donc un savoir et au Moyen-Âge, un certain nombre d'entre eux publient des traités botaniques. Un des plus célèbres au XIIe siècle, c'est celui d'Hildegarde de Bingen, une moniale, une femme. Et puis ensuite, Vincent de Beauvais ou Barthélemy l'Anglais, Albert le Grand dont je parlais également, ont traité de ces matières avec des habitudes qui concernent principalement d'abord, c'est vrai, les plantes médicinales, mais qui les amènent aussi à s'intéresser aux autres plantes. Ils sont même les premiers à avoir des pratiques comme d'étiqueter les végétaux, des choses comme ça, pour pouvoir mieux les connaître.
Ce savoir, il porte sur quoi exactement ?
Il porte sur l'ensemble des plantes qui parviennent à leur connaissance, c'est-à-dire celles qu'ils cultivent et plus éventuellement celles que eux aussi vont aller chercher, observer dans la nature qui est autour. Il y a notamment au XIIIe siècle dans la vie culturelle de l'époque, dans la tradition d'Aristote, une sensibilité encyclopédiste. Et donc, il y a la volonté de ces religieux de faire un petit peu le tour de la botanique et de présenter les différentes plantes. Donc, naturellement, ça se retrouve sous forme de présentation dans leur jardin.
Le jardin botanique, quelle est son utilité ?
Alors, le jardin botanique, proprement le vrai jardin botanique, lui apparaît plus tard. Il apparaît à la Renaissance. En Italie d'abord, l'un des premiers, c'est celui de Padoue, qui est célèbre pour sa forme ronde. Et c'est un jardin qui doit se comprendre dans l'esprit de l'humanisme, qui est un esprit de volonté de mieux connaître le monde, pour mieux peser sur lui, et aussi dans un contexte qui est celui des grandes découvertes, c'est-à-dire d'assimiler les végétaux que les voyageurs ont découverts au cours de leurs expéditions et dont ils rapportent des dessins en Europe. Et c'est à partir de là que les jardins botaniques vont émerger pour présenter ces plantes. Alors, il y a une petite phase intermédiaire où il y a un petit côté au début cabinet de curiosité, comme c'était très à la mode à la Renaissance, c'est-à-dire de présenter des choses très variées dans le jardin botanique, y compris des coquillages bizarres, y compris même des objets artificiels, y compris des plantes atypiques. Et puis, assez vite, il y a un esprit scientifique qui prend le dessus. Et le jardin botanique, c'est un instrument pour le travail des botanistes qui présentent les plantes et pour les présenter, qui fait un effort souvent de les classer. Donc un effort de classification, et ça se retrouve au jardin parce que souvent le plan du jardin est un plan organisé d'après la classification des plantes. Ça, c'est quelque chose qui va durer longtemps, jusqu'au début 19e siècle même, d'essayer dans l'organisation du jardin de donner à voir la classification des plantes.
La botanique, c'est quelque chose qui est plutôt pratiqué dans les milieux aristocratiques et dans la noblesse. Le peuple, lui, a certainement, et surtout le souci de se nourrir. Et ces plantes, elles n'ont pas particulièrement d'utilité pour les paysans ou...
Non, tout à fait. Le jardin botanique a une finalité, on pourrait dire scientifique, qui intéresse donc les gens des élites sociales, aristocrates, ecclésiastiques, des bourgeois aussi, des gens savants, des gens curieux. Ça participe de cet univers. Mais en revanche, le jardin botanique n'a pas d'abord une finalité économique. Ça, c'est absolument certain. D'autant que si en Italie, il apparaît dès le milieu du XVIe, en France, le premier jardin botanique est créé à Montpellier tout à fait à la fin du XVIe siècle. Il est presque aussitôt détruit par un épisode des guerres de religion tardives. Donc en fait, il démarre vraiment vers 1620. Et puis ensuite, vous avez Paris, le jardin des plantes, qui est créé sous Richelieu. Et en même temps, à Blois, Gaston d'Orléans, qui crée un jardin botanique un peu plus tourné vers l'aristocratie et l'agrément, mais enfin, tout de même, une collection sérieuse. Donc, au milieu du XVIIe, on a que ces trois jardins. Après, ça va se répandre un peu dans toutes les villes. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui crée ces jardins, d'ailleurs. Dans certains cas, c'est la municipalité. Dans d'autres cas, c'est la faculté de médecine. Donc là, il y a une utilité qui est, vous voyez, beaucoup plus scientifique que alimentaire. Dans d'autres cas, c'est une société savante. Dans d'autres cas, c'est un particulier curieux. Donc tous les cas de figure sont représentés pour doter la France d'un réseau de jardins botaniques sur des bases juridiques très variées.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du...
Jean Vassor, qu'est-ce que c'est que le jardin du roi ?
Le jardin du roi, c'est le nom que prend à un moment donné, au XVIIIe siècle, le jardin des plantes de Paris. Ce qui veut dire que c'est un jardin qui est placé sous l'autorité de l'administration de l'État, qui y nomme un responsable du jardin, le plus célèbre a été Buffon, qui installe aussi dans ce jardin, outre donc les collections botaniques qu'on peut y voir en s'y promenant ou en se promenant dans les serres, qui installe aussi des établissements d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que le jardin du roi est une école de chimie, de botanique, de minéralogie, vous voyez, où on forme des savants. C'est donc une institution savante centrée sur un jardin et qui, autour, développe des savoirs spécialisés dans l'ordre scientifique.
Certains rois se sont passionnés pour ces questions botaniques.
Il y a des princes qui ont été passionnés de botanique. Je parlais de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII. C'est un authentique passionné qui passait pour avoir une culture botanique extrêmement brillante. Dans le cas des rois au XVIIIe siècle, c'est plutôt la manifestation d'une administration monarchique que d'une passion du roi lui-même. Je ne pense pas que Louis XV ait une passion botanique particulière, ni Louis XVI. Louis XVI est passionné de géographie, il n'est pas passionné de botanique. En revanche, si vous voulez une passionnée de botanique un peu plus tardive, c'est Joséphine de Beauharnais, qui, elle, est vraiment passionnée de botanique, qui prétend collectionner toutes les roses qui existent à la Malmaison. Les rois eux-mêmes ne le sont pas directement, si vous voulez. Mais ça participe de leur encouragement au développement scientifique, plutôt. C'est plus politique que personnel, ce soutien au jardin du roi.
Les herbiers, on en possède de très anciens ?
Oui, tout à fait. Alors, on en procède, c'est au XVIIe siècle, la pratique de l'herbier, qu'on appelle à l'époque des jardins secs, que donc la pratique de l'herbier apparaît. Ça se développe au XVIIIe, et dans l'esprit du XVIIIe, où il est de bon ton, dans les milieux éclairés, de pratiquer des activités scientifiques, l'activité scientifique la plus volontiers pratiquée, c'est la botanique, parce que c'est celle qui est le mieux et le plus à portée du profane. Et donc, effectivement, beaucoup de gens, de Français, et de Françaises, c'est souvent une activité féminine, au demeurant, au XVIIIe siècle, pratique la confection d'herbiers, mais il y a aussi des hommes, Jean-Jacques Rousseau par exemple, qui est quelqu'un qui est passionné de botanique et qui s'intéresse beaucoup à la botanique.
Est-ce qu'il existe encore beaucoup de jardins botaniques aujourd'hui ?
Ah, il existe toujours aujourd'hui des jardins botaniques. Hein. Toutes les villes de France ont pratiquement leur jardin botanique. Mais en disant cela, il faut marquer qu'il y a eu une évolution sensible. Le jardin botanique tel qu'on le décrivait à l'instant, c'est un jardin à finalité scientifique, ce qu'il est resté du 17e, enfin du 16e au début du 19e. À partir du cœur du 19e, les savants botanistes n'ont plus vraiment besoin de jardins botaniques parce que ce n'est plus leur champ de leur activité. Le champ de leur activité, c'est le laboratoire, c'est de la biologie végétale, c'est des choses qui se produisent dans d'autres cadres que le cadre du jardin. Donc le jardin perd sa fonction purement scientifique, mais il la sauve d'une certaine manière en la transformant en une fonction pédagogique.
C'est-à-dire
que le jardin botanique devient quelque chose où le visiteur profane peut venir observer des plantes. C'est pourquoi on continue à les étiqueter, par exemple. C'est pourquoi on peut y amener les enfants. Et puis, ça ajoute une autre caractéristique, c'est d'être un jardin de loisirs, parce que c'est au cœur de la ville un jardin, parmi les jardins publics. Et c'est même souvent le premier grand jardin public ouvert à tous, qui est volontiers visité par les bonnes d'enfants pour amener les enfants dont on la garde jouer au cerceau dans les allées, si vous voulez, à l'ombre des arbres.
Et avec les fameuses serres sous lesquelles, en général, on peut aller voir des plantes exotiques assez étonnantes.
Tout à fait. S'y ajoutent des serres où on a les plantes exotiques dans une atmosphère en général moite, un petit peu chaude, donc des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et souvent, le jardin botanique se double au moins d'une ménagerie ou d'un embryon de zoo, hein, dans la mesure où on montre aussi des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos climats.
Dans le cadre de la crise écologique que nous traversons, Jean Vassor, la présence des végétaux, des espaces verts dans l'espace urbain se pose de manière complètement renouvelée actuellement. Quel lien y a-t-il dans l'histoire entre la présence du jardin dans la ville et la manière dont ce jardin est considéré, son utilité ?
Au cours de l'histoire, vu de très haut, le jardin est un conquérant dans la ville. Il y a toujours eu des jardins en ville, mais au Moyen-Âge, les jardins urbains sont des jardins privés, enfermés dans les murs des hôtels aristocratiques ou des couvents, parfois des jardins potagers de particuliers, mais là encore, c'est enfermé. Le jardin, le végétal apparaît au grand jour en ville à partir, on va dire, en gros, du XVIIe siècle, quand on développe d'une part une voirie nouvelle avec la démolition des fortifications qui laissent place à des boulevards. Et en général, les boulevards sont plantés d'arbres. Et avec d'autre part, la percée d'avenues qui irriguent la ville et permettent plus facilement de la pénétrer ou d'en sortir en améliorant la circulation. Donc ce sont là des éléments qui introduisent l'arbre et le végétal dans la ville à partir du XVIIe. Et ces éléments ne vont cesser de grandir par la suite jusqu'à notre époque contemporaine.
Mais ça répond à des plans d'urbanisme très particuliers où on a un espace libre, on se dit, bah tiens, on va peut-être faire un jardin ou un parc là.
Il y a deux cas de figure. Si on prend le cas de Paris, les parcs parisiens sont au départ des parcs aristocratiques royaux. Vous prenez les Tuileries, c'est Catherine de Médicis qui, devant son château des Tuileries, veut disposer d'un parc exactement selon la logique qu'on évoquait à propos du jardin à la française. En revanche, la voirie, là, ça répond à des besoins de circulation en ville. C'est Colbert qui fait établir les premiers boulevards, et il apparaît que Paris est engorgé, il y a besoin de voies plus larges pour assurer une circulation. Les arbres permettent de distinguer plusieurs voies pour les piétons, pour les voitures, et donc ça aussi a un besoin fonctionnel. Je pense pas qu'il y ait encore beaucoup à l'époque de préoccupations hygiénistes, si vous voulez, au XVIIe siècle. Ce sera différent au XIXe avec Haussmann.
Alors vous parliez du jardin des Tuileries, par exemple, qui était un jardin royal privé et qui est devenu public.
Le jardin des Tuileries est un jardin privé par son origine, puisque décidé par l'autorité royale. Catherine de Médicis est la régente, donc c'est royal, mais qui très vite est ouvert à l'usage public, dès le XVIIe siècle. Et c'est une particularité de Paris par rapport à Londres. À Londres, les parcs ne deviennent publics qu'au 19e. À Paris, dès le milieu du 17e siècle, les Tuileries sont ouvertes au public et on a des textes dans lesquels on explique qu'il faut bien qu'il y ait des endroits où les gens se rendent compte quand ils ont des affaires à traiter entre eux et que les jardins publics peuvent servir à cela. Donc les Tuileries sont un jardin public et ne vont jamais cesser de l'être. Hein. Même au début de la Révolution, les premiers troubles révolutionnaires ont lieu à proximité de jardins et débordent dans certains jardins.
Alors qu'est-ce que Haussmann, dans la manière dont il envisage la ville et son organisation et sa configuration, qu'est-ce que ça change du point de vue des jardins ?
Alors du point de vue des jardins, c'est un changement d'abord quantitatif. Il y en a bien plus après son passage qu'avant. C'est ensuite également un souci d'organisation. L'idée d'Haussmann, c'est de faire un parc aux quatre points cardinaux de la ville, hein, les Buttes-Chaumont, l'Observatoire, Parc Monceau, etc. C'est aussi de faire deux bois à l'est et à l'ouest, Vincennes et le bois de Boulogne. C'est de faire dans chaque arrondissement des squares et c'est de planter des arbres dans les avenues. C'est donc vraiment de verdir la capitale, du moins la capitale intramuros, parce qu'il ne s'occupe pas de la périphérie, il s'occupe pas de la banlieue, de verdir la capitale dans un projet qui prend en compte à la fois les nécessités de circulation, une fois encore, mais qui prend aussi en compte les nécessités, cette fois-ci, hygiénistes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire l'idée que c'est sain pour la population que de pouvoir se promener sous des ombrages et de bénéficier de l'air, de la chlorophylle. Enfin, c'est une idée qui fait son chemin au 19e siècle. On est quand même au siècle où la médecine prend en compte davantage ces réalités. De même que quand il remodèle la ville, en dehors des jardins, lorsqu'il fait détruire les quartiers centraux pour y percer des voies plus larges, ça participe aussi de ce souci d'aérer dans tous les sens du terme, si vous voulez.
Et c'est pas pour rien qu'on parle de la plupart des grands parcs dans les villes de France comme d'une sorte de poumon.
Oui, tout à fait. C'est une idée qui se développe nettement au 19e siècle, que Haussmann met en œuvre donc d'une façon active à ce moment-là. Ensuite, ce zèle ralentit et beaucoup déplorent, sous la Troisième République par exemple, que soit moins créé de parcs qu'il n'avait été créé à ce moment-là. Alors bien sûr, il est créé quand même certains espaces verts, ne serait-ce que des stades. Mais souvent les stades sont créés en périphérie parce que le cœur de la ville est occupé. Un stade de football, c'est 100 mètres de longueur, on ne peut pas introduire ça dans les villes n'importe où. Et donc il y a une espèce de parenthèse où le dynamisme végétal ralentit et qui se prolonge, cette parenthèse, jusqu'aux années 1980. Il y a un siècle de relatif ralentissement, notamment les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses se bornent à créer des espaces verts. Alors qu'est-ce qu'un espace vert des Trente Glorieuses ? Quand on crée des tours, entre les tours, on met une pelouse et des parkings. Ça ne va pas très loin en termes de jardin quand même. Et ces Trente Glorieuses, c'est 1950-1980, j'arrondis, ces Trente Glorieuses, c'est un temps creux de l'histoire des jardins. C'est le recul du potager. Les Français quittent les villages pour habiter en ville. Naturellement, ils habitent une tour, ils n'ont plus de potager. C'est le moment où de grands jardins, je pense le jardin de Giverny, celui de Claude Monet, je pense au jardin de Maulévrier en Anjou, qui ont été des grands parcs, des grandes créations de parcs dans les années 1880-1900. C'est le moment où ces grands jardins sont laissés à l'abandon et c'est le moment où on ne crée pas de grands parcs. En 1980, qu'il y a une prise de conscience écologique, c'est à ce moment-là que Giverny est réhabilité par Gérald van der Kempf, par exemple. C'est à ce moment-là qu'à Maulévrier, la municipalité réhabilite le Grand Parc. Et c'est à ce moment-là que se fait jour un goût nouveau pour les jardins avec la montée de la sensibilité écologiste.
Très contemporaine du jardin avec cette création musicale de Franz Amati intitulée Un jardin. Jean Vasseur, vous avez le sentiment que la végétation, les végétaux, la verdure sont en train de reconquérir les villes actuellement ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, ça me paraît très net. Le végétal s'introduit partout, dans les interstices du bâti, bien entendu. C'est là où il s'est toujours imposé d'abord, mais également sur les balcons, mais également sur les toits, la mode de culture sur les toits qui se répand, également sur les murs. Chacun connaît le musée du Quai Branly, par exemple, c'est l'exemple le plus célèbre. Des voies également, la Coulée Verte à Paris, par exemple, entre la Bastille et le bois de Vincennes. Donc là, il y a une poussée du végétal. Lorsqu'on a créé la Bibliothèque nationale de France, on a créé une pinède à l'intérieur, qui est la seule pinède parisienne, bien entendu. Et donc, il y a une poussée du végétal qui se poursuit actuellement lorsque l'on voit les projets de la municipalité parisienne, en particulier en parlant de créer même des forêts urbaines, même si là, on se heurte à des difficultés. J'ai entendu dire que celle qui était projetée derrière l'Opéra, aux dernières nouvelles, on ne peut pas la faire parce qu'il y a quand même en sous-sol des gros problèmes de métro et d'adduction variées qui empêchent d'implanter les arbres.
Cette réintroduction de la verdure en ville, c'est quelque chose qui pourrait être une solution aux problèmes écologiques et environnementaux qu'on connaît actuellement, ou bien ça reste quand même très artificiel et c'est, si vous me permettez l'expression, un peu un emplâtre sur une jambe de bois?
Bon, la réponse peut être que nuancée à cette question, me semble-t-il. Bon, c'est vrai, quand je parlais de forêt urbaine, je suis un petit peu sceptique sur l'idée d'une forêt en pleine ville, parce que pour moi, l'image que j'ai de la forêt, c'est quand même pas ça. Maintenant, le fait de doter la ville de davantage de présence végétale, qui joue quand même un rôle quand il y a canicule, ça joue un petit rôle de régulation thermique, par exemple, ça peut ne pas être complètement inutile. Il reste que globalement, le phénomène tient surtout à une évolution des sensibilités et que la population est demandeuse d'équipements de ce genre et de développement de végétal au sein des villes. Ce qui marche de pair d'ailleurs avec la vision qu'ont un certain nombre de paysagistes. Je pense au paysagiste Gilles Clément qui répugne à discipliner la nature. Donc il crée des jardins, il a participé même à la création de jardins parisiens, mais il répugne à discipliner la nature. Il pense qu'il faut mieux accompagner la nature et il exalte même ce qu'il appelle le tiers paysager. Le tiers paysager, c'est la nature non retouchée par l'homme. Pour lui, l'idéal, il est là. C'est-à-dire qu'on est à la limite de l'histoire du jardin. Parce que qu'est-ce que c'est que le jardin? Le jardin, c'est se créer quelque part un espace civilisé, plus confortable que la nature, qui malgré tout recèle des dangers, toujours menaçant. Alors que lui, son idée, c'est de suggérer que finalement, le mieux, il est dans la nature et plus dans le jardin. Le paradis n'est plus dans le jardin, il est au-delà. On est, vous voyez, au terme d'une courbe. Alors l'avenir dira ce qu'elle est, je fais plutôt de l'histoire que de la prospective, donc je ne me prononcerai pas davantage sur ce point, mais ça reflète quand même les interrogations, les débats qui sont à l'œuvre dans nos sociétés actuelles sur ce thème.
Merci beaucoup Jean Vassor. Je rappelle le titre de votre livre, paru chez Perrin, Les Jardins de France, une histoire du Moyen-Âge à nos jours, que je recommande vivement à nos auditeurs.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup à RCF Touraine qui vous accueillait dans ses studios. Et merci à Christophe Morag qui était à la technique ici à Lyon. Merci encore à vous.